J'ai à peu près eu entre 8 et 10 clients réguliers, pour la plupart depuis au moins 6 ans, voire 8, voire 9, voire 10. Le fait d'avoir des clients très réguliers, ça permet de mieux les connaître et parfois, dans le cas de la traduction, en tout cas dans certains textes, de lire un petit peu entre les lignes et de pouvoir proposer des choses parce qu'on connaît bien ses clients. Donc, pour moi, ça apporte plutôt plus de créativité. J'ai l'impression, en tout cas pour mes clients, que je ne suis pas forcément uniquement un prestataire de traduction lambda. Pour la plupart, en tout cas, je crois être une partenaire vraiment de travail, de communication.
Attention, il y a de très fortes chances qu'à l'issue de cet épisode de La Cohorte, vous vous sentiez galvanisé et bouillonnant d'idées. Cela peut surprendre la première fois, mais sachez que c'est normal. Dans ce podcast, je décortique les stratégies de collègues freelance qui ont trouvé des réponses originales à des questions qu'on se pose tous. Il m'arrive aussi de partager avec vous mes propres expériences. Ces conversations vous donneront plein de pistes très concrètes pour développer sereinement vos boîtes. D'où cet état presque euphorique qui s'emparera de vous à la fin de chaque épisode. Et sinon, moi c'est Marine, je suis mentor et formatrice de freelance. Mon rôle, c'est de vous aider à avoir un flux de clients et de missions plus régulier. Salut audacieuse consoeur. Hello hello valeureux confrère. Je suis contente de vous retrouver ici car j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui, dans votre vie d'entrepreneur indépendant, vous pompe le plus d'énergie et de jus de cerveau? Je n'entends pas toutes vos réponses, mais je parierai mon ordi, mon iPad et mes pantoufles que vous êtes nombreux à me dire.
Mais Marine, c'est évident. Le truc qui me vide le plus, c'est d'aller chercher de nouveaux clients.
Pétard, c'est vrai que c'est un sacré challenge d'aller chercher des clients. Quelles que soient nos méthodes, on y met beaucoup d'ardeur, on y consacre des heures et des heures, et c'est souvent source de stress. Et vous voulez que je vous dise un truc fou? On peut faire autrement. On peut économiser cette précieuse énergie en fidélisant les clients qu'on a déjà, plutôt qu'en allant en chercher de nouveaux. C'est l'approche qu'a choisie Nélia, que vous venez d'entendre. Nélia est traductrice et cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas eu à prospecter ou à communiquer pour attirer de nouveaux clients. Nélia travaille avec la même poignée de clients depuis de nombreuses années. Elle a noué des relations fortes avec ses interlocuteurs qui la sollicitent très régulièrement. Et cerise sur le gâteau, les clients de Nélia la recommandent autour d'eux, ce qui fait qu'elle a toujours du boulot, voire trop. Et vous ? Ça vous brancherait d'avoir des clients aussi cool?
Oui, 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 oui!
Alors ouvrez grand les oreilles, je lance l'interview de Nélia. Nélia, pour préparer cette interview, j'ai jeté un œil à ton profil LinkedIn. Et figure-toi que j'ai vu que tu étais à ton compte depuis octobre 2010, soit 10 ans et 10 mois. Est-ce que toi aussi, ça te paraît fou, tous ces 10? Et est-ce que tu as un rapport particulier avec le chiffre 10?
Alors, ça me paraît fou que ça fasse plus de 10 ans que je sois à mon compte, déjà, parce que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé au départ. J'ai pas de rapport particulier avec le chiffre 10. Je t'avoue, d'habitude, c'est plutôt 8.
Non, mais c'est fou. Regarde, octobre 2010, 10 ans, 10 mois. Moi, ça m'a paru dingue. Bon bref, je vais pas t'embêter longtemps là-dessus. Autre question pour se lancer. Tu as hésité avant d'accepter de réaliser cette interview. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?
Parce que je suis plutôt relativement invisible, on va dire. Enfin, j'ai des profils sur les réseaux sociaux, mais je suis pas très active. C'est un petit peu volontaire. J'ai pas nécessairement besoin de l'aide. J'ai pas besoin de produire du contenu, ce genre de choses. Donc, j'essaie de garder une certaine discrétion et j'ai du mal à me mettre en avant aussi, à faire mon auto-promo, on va dire.
Ça va bien se passer, tu vas voir. Comme je te l'ai expliqué quand on préparait l'interview, l'objectif, c'est de parler de ton expérience, donc pas du tout de te mettre dans une situation de te vendre ou de faire de la promo. Allez, maintenant, on se retrousse les manches et on rentre dans le vif du sujet. Nélia, est-ce que tu peux me dire combien tu as de clients en ce moment? Qui ils sont et depuis quand tu travailles avec eux?
Alors, j'ai à peu près entre 8 et 10 clients réguliers. Je ne compte pas les clients qui me contactent une fois et qui ne me recontacteront jamais. Hein. Donc, j'ai à peu près eu entre 8 et 10 clients réguliers, pour la plupart depuis au moins 6 ans, voire 8, voire 9, voire 10. Et puis, j'ai un client très régulier que j'ai depuis 2 ans seulement.
Est-ce que donc d'avoir un petit nombre de clients, mais des clients fidèles, c'était un choix stratégique? C'était quelque chose que tu voulais mettre en place?
Pas spécifiquement, je me suis pas vraiment posé la question comme ça. Je dirais que ça s'est fait. Chacun m'apporte un chiffre d'affaires suffisant. Ça me permet de les garder, de pouvoir travailler avec tous ces clients-là. Mais j'ai pas forcément besoin ni envie d'avoir beaucoup de clients.
Donc c'est un modèle qui te convient manifestement?
Oui, c'est un modèle qui me convient parce que ça me permet aussi de bien les connaître individuellement, de bien connaître leur activité, ce qu'ils font. Et je pense que ça entre dans la qualité de ce que je leur fournis comme prestation, en tout cas.
Tu viens de me dire que tu aimais ce modèle parce que tu as l'impression de bien connaître tes clients. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qui fait que ce mode de fonctionnement, tu l'apprécies aussi beaucoup?
Alors, ce qui est appréciable, c'est que selon les clients, alors c'est pas vrai pour tous, mais pour une bonne partie, ils ont quand même des temps forts dans l'année, des événements marquants. Et puis, au fur et à mesure du temps, mais on sait quand ça va tomber. Donc, ça permet d'avoir un petit peu une visibilité sur telle ou telle période. Ça va être un peu plus chargé parce que le client a un salon ou le client a une réunion institutionnelle, ce genre de choses. Donc, après, ça permet aussi de mieux s'organiser, mieux répartir sa charge de travail sur l'année, planifier ses vacances aussi.
Et tu me disais aussi, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, il faut que je te le refasse remarquer, tu me disais aussi que du coup, grâce à ces relations qui durent et ces clients donc, qui reviennent toujours te proposer des traductions, tu ne prospectais pas.
Oui, c'est vrai. J'ai souvent du mal à l'avouer parce que ce n'est pas toujours très bien vu, mais je prospecte peu. On peut presque dire que je ne prospecte pas parce que mes clients me fournissent une quantité de travail qui est quand même assez importante, qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à accepter un nouveau client qui aurait de gros besoins. Et puis aussi, j'ai des clients qui me recommandent à d'autres personnes, donc qui deviennent des prescripteurs. Et là, donc ça se nourrit, si tu veux. Je n'ai même pas besoin de démarcher, c'est le client qui vient me chercher.
Tu dis que c'est pas bien vu pour toi de dire que tu prospectes pas, parce que tu as l'impression d'être trop privilégié, c'est ça ou...
Peut-être un petit peu, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis c'est vrai qu'on a quand même, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a quand même pas mal d'injonctions sur il faut prospecter, il faut trouver des clients, il faut faire du marketing. Et c'est vrai que quand on le fait pas, parce qu'on a un niveau d'activité qui permet d'éviter d'avoir à le faire, tout simplement. Personnellement, en tout cas, moi je ressens une certaine culpabilité, entre guillemets.
Ça me paraît complètement fou. Ça me paraît dingue. Parce que justement, moi, j'ai l'impression que tous les freelances avec qui j'échange, en tout cas, l'objectif, c'est ça, quoi, d'atteindre cette régularité-là, cette stabilité. Et donc, du coup, c'est cool d'en être arrivé là, je trouve.
Ouais, moi, je trouve ça super cool, mais c'est vrai que je le crie pas sur les toits.
D'accord. Bon, si on revient sur ton mode de fonctionnement, donc avec peu de clients, mais des clients fidèles, vu de l'extérieur, ça pourrait paraître un peu plan-plan. Est-ce que tu t'ennuies?
Non, pas du tout. Pour plein de raisons, parce que déjà, j'ai des clients qui sont dans des domaines variés. Donc, ça offre quand même une certaine diversité, une variété dans le travail. J'ai des clients qui ont des besoins très concentrés sur une ou deux périodes de l'année. Puis, j'ai des clients qui ont des besoins toutes les semaines, par exemple. Après, je trouve aussi que le fait d'avoir des clients très réguliers, ça permet de mieux les connaître, de mieux connaître ce qu'ils font. Et parfois, dans le cas de la traduction, en tout cas, dans certains textes, de lire un petit peu entre les lignes. Et de pouvoir proposer des choses parce qu'on connaît bien ses clients. Donc pour moi, ça apporte plutôt plus de créativité que moins.
Question de tarif. On a tendance à croire que c'est pas évident d'augmenter ses prix quand on travaille toujours avec les mêmes clients. Est-ce que toi, tu as réussi à faire évoluer tes tarifs ou tu es resté sur la base que tu avais négociée au début de ta relation avec chacun de ses clients?
Alors, ça dépend des clients. J'ai des clients institutionnels pour lesquels les tarifs sont un petit peu figés. Donc là, c'est plus difficile de les faire évoluer. Et dans ce cas-là, moi, je joue plutôt sur les délais. C'est-à-dire que je propose des délais plus longs parce que ça me permet aussi d'intégrer des projets à des tarifs plus intéressants. Et puis, j'ai un client qui m'a appliqué des tarifs plus élevés pour que je puisse me libérer, pour que je sois plus tentée d'accepter ses projets. Et sinon, je suis à un niveau de tarif qui est quand même relativement élevé, je pense, par rapport à d'autres confrères ou consoeurs.
Mais donc, toi, tu t'es pas sentie bloquée sur cet aspect-là?
Au début, un tout petit peu, je dirais les deux, trois premières années. Mais en fait, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à changer de client. À ce moment-là, j'ai fait de la prospection et j'ai appliqué des tarifs plus élevés aux nouveaux clients, jusqu'à être au point où j'en suis maintenant.
Maintenant, entrons dans ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui, selon toi, te permet de fidéliser ainsi tes clients ?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que le premier élément, c'est ce qui est à mon avis le plus important pour eux, en tout cas, c'est la qualité de mes traductions. Donc, je ne suis pas parfaite, hein, personne ne l'est, aucune lettre traduction n'est parfaite. Mais je pense qu'ils apprécient mon style rédactionnel. Ils apprécient aussi, justement, comme je te disais, le fait que parfois j'arrive à lire entre les lignes ce qui n'est pas forcément dit dans le texte, mais que je sais parce que je les connais bien.
À quoi ça tient pour toi, la qualité d'une traduction ? Tu as évoqué le style. Qu'est-ce qui est garant de la qualité de ta traduction aussi ?
Vraiment, je pense que le style rédactionnel, c'est quand même le gros point fort. Après, il y a le fait qu'il y ait quand même de la précision, le respect de la terminologie du client. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec la fidélisation.
Et tu me disais aussi, quand on préparait l'interview, que tu appliquais à chacune de tes traductions plusieurs couches de relecture et de correction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Je me suis fait des fiches par client, en fait, puisque chacun a ses termes spécifiques. Il y a certains éléments typographiques aussi, les espaces dans les guillemets, ce genre de choses, les majuscules accentuées ou non, par exemple. Et moi, j'applique pour chaque client un processus de relecture un petit peu différent à chaque fois. Donc, sur des traductions très rédactionnelles, par exemple, qui demandent vraiment un bon style, je vais retravailler plusieurs fois. Pas tout le temps de la même façon. Parfois, je vais imprimer ma traduction, la relire sur papier, réintégrer les corrections. Parfois, je rechange encore des choses à ce moment-là. Parfois, je vais demander à mon traitement de texte de me lire la traduction. Donc, c'est une voix un petit peu robotique, mais on entend des choses qu'on ne voit pas sur papier ou qu'on ne voit pas à l'écran. Et vraiment, après, j'ai les listes un petit peu de « attention, privilégier tel terme à tel autre terme ». Alors, je parle de choses qui sont pas forcément techniques, par exemple, mais tu vas avoir un client qui va préférer accroître à augmenter, par exemple. Tout bêtement, et il faut s'en souvenir. Donc, à un moment, tu es obligé de les lister pour que ce soit plus clair pour toi et puis pour être certain d'appliquer vraiment le style du client et ce qu'il préfère.
Donc, on est quand même à un niveau de personnalisation assez élevé.
Oui, et c'est pour ça aussi que avoir 8-10 clients, c'est déjà pas mal. Parce que si j'en avais beaucoup plus, il faudrait avoir 20 fiches pour 20 clients, par exemple.
Elles ressemblent à quoi, tes fiches ? C'est des documents Word, c'est quoi ?
Je les fais sous Notion. En général, je fais des listes à cocher, tout simplement, avec un petit en-tête. Je vais avoir préparation du fichier, traduction, choix terminologique, à vérifier avant la livraison, par exemple. Ça va être mes en-têtes. Et puis dedans, j'ai des cases à cocher, ce qui me permet, quand je suis en étape de relecture, de cocher. Et puis ça se raye automatiquement, donc je vois tout de suite où j'en suis.
Est-ce que c'est ça que tu appelais ton contrôle qualité interne ?
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça s'est développé au fil du temps. Mais oui, c'est ça, c'est un contrôle qualité interne.
On le sent bien à travers tout ce que tu nous dis. Tu es quand même plutôt rigoureuse et exigeante dans ce que tu rends à tes clients.
Ben, j'essaye en tout cas. Je trouve aussi que ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas toujours le même niveau d'énergie. On n'a pas toujours le même niveau de fatigue parfois. Et ça permet, c'est une espèce de garde-fou. C'est-à-dire que le jour où on a moins d'énergie, où on est plus fatigué ou alors on est plus soucieux, par exemple, eh ben on a quand même ces étapes à faire à chaque fois et au moins ça nous permet de tenir la route en essayant de garder cette qualité constante.
Donc, la qualité comme élément clé dans cette relation particulière que tu as avec tes clients, est-ce qu'il y a autre chose qui te permet, à ton avis, de les fidéliser, ces clients ?
Alors, j'essaye aussi pas mal de poser des questions en cours de route et pas attendre juste le jour où je dois leur livrer la traduction. Parfois, il y a vraiment des choses qui sont pas claires et on est obligé de poser une question en cours de route. J'essaie de regrouper pour pas trop déranger le client ou la cliente, bien sûr. Mais je pense que ça contribue et puis c'est apprécié aussi parce que le client sent qu'on s'intéresse au fond du texte, qu'on est capable de faire remonter des erreurs, qu'on demande aussi est-ce que vous avez une préférence sur tel ou tel terme ou sur telle ou telle formulation. Ça, c'est important. Et puis, le respect des délais, mine de rien, c'est quand même assez important. Parfois, le client a des impératifs de commercialisation, de publication, et ça me semble vraiment important de livrer sa traduction dans les délais.
Est-ce que tout ça, ça fait partie de ce que tu appelles le sens du service? Tu l'as évoqué plusieurs fois quand on discutait ensemble. C'est quelque chose qui me paraissait important pour toi.
Oui, j'ai l'impression, en tout cas pour mes clients, que je ne suis pas forcément uniquement un prestataire de traduction lambda, c'est-à-dire à qui on envoie un bon de commande et puis dont on réceptionne le produit à un moment donné. Pour la plupart, en tout cas, je crois être une partenaire vraiment de travail, de communication. Et c'est vrai que le sens du service, c'est aussi parfois dire « je ne suis pas compétent » ou « je ne suis pas compétente sur ce domaine-là » ou bien « je ne peux pas pour la date que vous me demandez, mais je peux pour 2 jours plus tard, par exemple. » Donc, c'est essayer de toujours trouver une solution pour le client.
Est-ce que tu sais si tes clients travaillent avec d'autres traducteurs ?
Pour la plupart, oui. Ce sont souvent des clients qui ont l'habitude de travailler avec plusieurs traducteurs, soit parce qu'ils gèrent plusieurs langues, soit parce qu'il y a des traducteurs spécialisés dans tel ou tel domaine plus technique que ce que je fais moi, ou tout simplement parce qu'ils ont plusieurs branches, plusieurs divisions au sein de leur entreprise, et certains ont leur traducteur depuis longtemps. Donc très souvent, ils ont l'habitude de travailler avec d'autres traducteurs que moi, bien sûr.
Et quels sont les signes qui te font dire que toi, tu as un statut un peu à part ou en tout cas spécifique dans leur cœur ?
Alors, dans leur cœur, je ne sais pas.
Dans leur cœur, je me suis emballée, mais bon, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un client repousse un délai parce qu'il souhaitait que ce soit vraiment moi qui me charge du texte ou qu'il accepte un délai vraiment long parce qu'il souhaitait vraiment que ce soit moi. Et dans certains cas, j'ai pu imposer en partie mes conditions, c'est-à-dire oui, je peux le faire, mais pas pour tout de suite. Oui, je peux le faire, mais pas à ce tarif-là. Voilà, donc le fait que parfois, il me sollicite justement spécifiquement en disant « on souhaiterait vraiment que ce soit toi », ça, je pense que ça en dit long.
Et est-ce que tu arrives à me dire combien de temps ça t'a pris à la louche hein, pour atteindre ce statut privilégié ? À quel stade en fait de tes relations clients tu t'es senti « ah là, on est passé à autre chose » ?
C'est assez variable selon les clients, mais je dirais pour chaque client, peut-être 2 ans.
Est-ce qu'en dehors du boulot pur, tu échanges avec tes clients ?
Ça peut arriver qu'on s'envoie des messages, notamment quand on part en vacances, je vous souhaite ou je te souhaite des bonnes vacances, et puis s'informer, j'espère que tout va bien, enfin voilà. Il y a un confrère avec qui je travaille, que j'ai déjà rencontré en vrai, on a mangé ensemble. C'est pas uniquement bonjour, est-ce que vous pourriez me faire un devis, merci, et puis le devis est accepté, j'envoie la traduction, et puis la personne accuse réception et c'est tout. Non, je pense que ça va un petit peu plus loin quand même.
Et tu me disais aussi que t'envoyais systématiquement des cartes de vœux.
Oui, ça c'est une habitude que j'ai prise assez tôt, parce que je trouve ça sympathique, c'est une petite touche personnelle aussi. Ça coûte pas grand-chose en général d'envoyer une carte de vœux, c'est sympa... en général, c'est bien pris, vraiment, les gens apprécient. En janvier, ils me disent « j'ai reçu ta carte de vœux, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée ».
Tu m'as même parlé de panier gourmand.
C'est arrivé pour certains clients, ouais, certains très bons clients. J'ai envoyé des petits cadeaux, notamment, alors c'est vrai que moi j'habite en Bretagne, donc c'est assez facile, hein, avec les biscuits, le caramel au beurre salé, c'est assez simple. On peut pas le faire avec tous les clients, bien sûr, mais c'est déjà arrivé.
Et donc, tu sais que ce sont des petites attentions qu'ils apprécient.
Oui, je sais que c'est apprécié. En général, ils m'en reparlent. À l'inverse, j'ai déjà aussi reçu des cadeaux de la part de clients.
Ça aussi, ça montre que tu es au-delà du prestalanda. Parce que perso, je ne crois pas avoir reçu des cadeaux de mes clients. Je réfléchis, mais non, je m'en rappellerai.
Ouais, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé notamment l'année dernière.
Tu as eu quoi ?
Un beau livre. C'est sympa, surtout que je ne m'y attendais pas du tout.
Est-ce que tu penses que ces attentions qui sortent du cadre du boulot, elles contribuent à entretenir ou renforcer ton statut privilégié ? Alors, je vais le redire, hein, dans le cœur de tes clients.
Je pense que ça participe à ça, ouais. Clairement, parce que ça permet, en tout cas, je me dis pour les clients que je n'ai pas rencontrés encore, en vrai, ça personnalise beaucoup la relation, quand même. Ça permet vraiment de créer du lien. De mon côté, moi, je le fais spontanément, je le fais naturellement, c'est pas du tout quelque chose de forcé. Et ça me coûte rien en temps de demander comment tu vas, comment vous allez. Notamment, même l'année dernière, j'espère que tout va bien pour toi, que ta famille n'est pas touchée par le coronavirus. Pour moi, c'est vraiment naturel. Ça fait partie de mon mode de communication.
On l'a un peu évoqué, mais donc il y a des clients que tu connais depuis très longtemps. Est-ce que certains sont devenus des amis ?
Oui, oui, en partie, oui. Je pense que le confrère avec qui je travaille depuis quasiment mes débuts, oui, maintenant, je pense qu'on est amis. Et puis, j'ai une ou deux personnes chez quelques clients avec qui je pense que, oui, il y a vraiment une relation, en tout cas vraiment sympathique et agréable, qui s'est créée, très clairement.
Et donc, ces relations fortes qui vont donc bien au-delà des simples échanges autour d'une presta, est-ce que ça aussi, ça fait que tu apprécies ce mode de fonctionnement ?
Tout à fait, parce que, à mon sens, en tout cas, ça crée vraiment une relation un petit peu d'égal à égal. Moi, j'aime vraiment bien fonctionner aussi avec le relationnel. Donc ça, c'est vraiment important pour moi.
Allez, la traditionnelle question de la fin maintenant. Quel est ton dernier kiff de freelance ?
Eh bien, justement, chez un de mes clients, il y a un responsable assez haut placé dans l'équipe de direction qui a demandé spécifiquement, il n'y a pas très très longtemps, à ce que me soit confiée une traduction en particulier parce que j'avais déjà travaillé sur le dossier. Et donc ça, je l'ai vu juste dans l'objet de l'email qui m'a été transmis et j'ai été particulièrement touchée.
Il y avait écrit quoi dans cet objet ?
C'était marqué « Pour Nelia, avec mes remerciements ».
Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Des millions de merci à Nelia qui a accepté de sortir de l'ombre pour partager avec nous son expérience. Je perçois, par-delà les ondes, que vous aussi, vous avez trouvé cet échange ultra riche. Comment ? Vous êtes au taquet et vous souhaitez fidéliser vos clients ? Eh bien, figurez-vous que je m'en doutais. Alors voici ce qu'il faut absolument retenir du témoignage de Nelia. Petit A, si vous accrochez avec un client, montrez-le lui en allant un peu au-delà de ses attentes. Intéressez-vous en profondeur à ses projets, osez poser des questions, faire des suggestions. Cela vous permettra de souligner votre implication. Petit B, j'aime beaucoup le système de contrôle qualité interne que Nelia a créé. C'est top pour prendre du recul sur ce qu'on envoie à nos clients et garantir une qualité constante. Je pense qu'on peut tous s'en inspirer, parce que, bah oui, la qualité, les clients, ils kiffent. Petit C, gardez en tête que vos clients sont des êtres humains. Et comme tous les êtres humains, ils adorent qu'on s'intéresse à eux, qu'on prenne de leurs nouvelles, de temps en temps, avec sincérité, bien sûr. Et si l'occasion se présente, proposez-leur de prendre un café ou bien d'aller déjeuner avec eux. C'est comme ça que vous vous ferez une place à part dans leur cœur. Bon, je suis sûre que vous aussi, vous avez un tas d'astuces pour créer des liens forts avec vos clients. Ça serait cool que vous me racontiez tout ça en m'envoyant un message sur Instagram à tlacohorte.freelance ou un mail à hello@tlacohorte.fr. Avant de couper le micro, une dernière info. Si vous voulez plus de partage d'expérience, plus de conseils pour développer sereinement vos boîtes, abonnez-vous à la New News, la newsletter de la cohorte. La New News, je l'envoie un vendredi sur deux. Et pour ne pas manquer la prochaine édition, eh bien, filez vite vous abonner sur lacohorte.fr. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, restez libres.